Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, Vie et mort du docteur Gregory House. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Ah, ça y est, j'ai obtenu un nouveau rendez-vous à l'hôpital de Princeton-Plainsboro avec le docteur Gregory House. Bon, parce que déjà, la dernière fois, on avait pointé du doigt le fait qu'il était très, très, très occupé, mais surtout très différent de l'habituel docteur de télévision, le docteur Kildare ou Marcus Welby. Gentil, compatissant et empathique. Bah lui, non, pas du tout. Il est tout aussi infaillible qu'eux, mais il n'en a rien à faire de ses patients. Parce qu'ils mentent. Tout le monde ment et cela perturbe le diagnostic. Donc, si vous ne parlez pas aux malades, vous avez toutes les chances de bien le soigner.
C'est dans le mensonge que la vérité commence. Méditez cela.
Ça ne veut rien dire, non ?
Voilà, exactement. Ça veut rien dire. Et ce personnage misanthrope, dysfonctionnel, égocentrique et excessif est donc à la tête d'une série médicale qui renouvelle non seulement les séries médicales, mais les séries tout court. Après un démarrage assez timide, la série bénéficie d'une vraie locomotive en étant programmée juste après American Idols, la nouvelle star. Et elle explose avec des chiffres d'audience rassurants et stabilisants.
Je vais vérifier ça.
Je vais passer ce coup de fil.
Je vais le maintenir en vie, le maximum de temps.
Je vais déjeuner.
On parle de Gregory House, mais il y a non seulement son Watson, Wilson, mais aussi sa patronne qui dirige l'hôpital, la docteure Cuddy. Lisa Edelstein a joué dans I, McBeal et dans The West Wing, la call girl du premier épisode de la série, bah c'est elle. Et nous l'avions rencontrée au festival de télévision de Monte Carlo.
J'ai quelque chose à vous demander.
Non, je ne coucherai pas avec vous. Une fois, ça suffit. C'était trop triste la dernière fois.
Cuddy et House ont une relation d'un soir et il prétend lui avoir donné tout ce qu'elle voulait. Mais elle n'en parle jamais. Je pense qu'ils ont une relation d'adulte très compliquée, pleine de conflits et d'intrigues. J'espère que quelque chose arrivera, mais je ne sais pas si ça se fera. Il y a un dialogue important entre les deux personnages. Pour moi, Cuddy se révèle de plus en plus au fil des saisons, de façon très conflictuelle. Elle n'est pas celle qui dit « non, pas question ». Elle n'est pas la méchante de service. Ce n'est pas la méchante sorcière de l'Ouest. En fait, elle l'aime et elle l'admire et vit en grande partie pour lui. Mais elle est forcée d'être le gendarme parce qu'il ne peut pas se gendarmer lui-même. Elle est donc dans une position très conflictuelle, à la fois du côté de l'hôpital et aussi de son côté à lui. Et je pense que ça fait bien rebondir les choses. Hugh Laurie est un gros bosseur. Il est extrêmement concentré car il a des pages et des pages de dialogues chaque jour et que la plupart de ses dialogues sont des termes médicaux très complexes. Et il doit faire cela avec l'accent américain, avec une canne, de petits objets qu'il doit manipuler, des petits trucs qui sont importants pour la série. Alors est-ce qu'il fait des blagues sur le plateau ? Pas vraiment. Mais il est très drôle et très intelligent. Il a des conversations hilarantes avec nos scénaristes quand ils nous rejoignent entre deux séquences. Des discussions tellement outrées et cochonnes que je ne peux rien vous répéter ici.
Lisa Edelstein vient de mettre le doigt sur la difficulté d'incarner un personnage comme Gregory House. Ses accessoires, son accent américain, alors que Glory est anglais, et la façon de sublimer les dialogues, de ne pas tomber dans la caricature ou dans la méchanceté pure. Si vous ajoutez à cela le fait que Glory est en permanence à l'image et que chaque épisode est tourné très rapidement, ça pourrait s'avérer complètement impossible ou du moins très aléatoire.
Le gros du travail quand on interprète un personnage, c'est que ça fonctionne bien. Ce n'est pas d'aller au plus profond des choses pour y puiser l'autre. Non, pour moi, ça ne marche pas comme ça. L'effort de concentration qui est le plus épuisant, c'est quand on n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et vous ne savez pas quoi. Alors vous tentez des tonnes de choses, vous repartez à zéro pour tenter de comprendre où est le problème et pourquoi vous ne pouvez pas jouer juste, pourquoi ça vous paraît à côté de la plaque. Je ressens la difficulté à trouver quelque chose. C'est dans ces moments-là que je suis épuisé à la fin de la journée.
House a donc trois assistantes. Ils maltraitent, interrogent, malmènent, moquent, poussent dans leur dernier retranchement. Ce sont Foreman, interprété par Omar Epps, Cameron, interprété par Jennifer Morrison, et Chase, interprété par Jesse Spencer, qu'on a déjà entendu au début de ce podcast.
Quelqu'un parmi vous pense que ce diagnostic pourrait être compromis parce qu'on n'a pas les antécédents précis de la famille ?
J'ai les antécédents précis de la famille.
J'ai une famille, mais pas sa famille. Son père n'est pas son père.
Pourquoi vous dites ça ?
30% des pères ignorent qu'en réalité, ils élèvent l'enfant d'un autre.
Et je crois savoir que les chiffres sont plus proches de 10%.
C'est ce que nos mères voudraient nous faire croire.
Did he hire them because
les a-t-il engagés parce qu'ils sont comme lui ? Ou deviennent-ils comme lui parce qu'ils travaillent avec lui ? Ce sont des bonnes questions qui suscitent de bonnes histoires. La fin justifie-t-elle les moyens ? House les rend très froids, très stratégiques, très procéduriers. Je veux savoir ce que vous avez qui va mal, non pas parce qu'on s'en préoccupe, mais parce que c'est uniquement ça qui nous intéresse. Et parce qu'on est bon dans ce domaine. Est-ce que c'est la meilleure méthode pour traiter un patient? Ou devrait-on montrer plus d'empathie? Quelle est la meilleure manière qui justifie les moyens? Telles sont les questions très pertinentes que nous commençons à bien voir dans le comportement de nos personnages. Tout ça a entraîné des événements à la fin de la saison 3, par exemple.
Builds to a climax in season 3, where our characters.
Où nous n'aimons plus ce que nous sommes devenus. Est-ce la cause une cassure dans l'équipe?
And it causes a rift in the team.
Celui qui parle aussi bien des assistants de House, c'est Jesse Spencer, l'acteur qui interprète le rôle du Dr. Chase. Il était aussi présent au festival de télévision de Monte Carlo. Je vous ai dit tout à l'heure que l'idée d'avoir un personnage antipathique au cœur d'une série était assez inédite, sans que ce personnage soit compensé par un autre moralement droit et bon. C'est ce qui s'est passé en saison 1, alors que les audiences initiales de la série étaient encore très moyennes. Pour sécuriser l'audience, on demande à ce que soit rajouté un personnage face à House. Ed Vogler se retrouve à la tête de l'hôpital depuis qu'il a fait une dotation de 100 millions de dollars. Et il va s'opposer farouchement au docteur Gregory House et à ses méthodes. Vogler va même forcer Cameron à partir, bon, mais cela très momentanément. En cours de saison 1, en plus de cet opposant milliardaire à Gregory House, on fait surgir son ex-fiancée, Stacey Warner, incarnée par Cella Ward, une des actrices des Sœurs Reed et de Once and Again, et qui a joué depuis dans Les Experts Nathan et dans FBI, la nouvelle franchise du producteur Dick Wolf. Et le conflit est immédiat, puisque House doit sauver un patient qui s'avère être le mari de Stacey, son ex. J'avais compris.
Tu ne pensais pas que je me serais mariée?
Pas avec un type aussi mal foutu. Il est pitoyable, son pancréas.
Son apparition dans la saison 1 est tellement remarquable que Stacey, en saison 2, devient l'avocate de l'hôpital et continue donc à être confrontée à Gregory House. Dans un double épisode particulièrement dramatique, c'est Foreman qui est atteint par un virus potentiellement mortel. Et c'est à House de trouver le remède. Dans ces épisodes, le formidable Charles S. Dutton va tenir le rôle du père de Foreman, appelé à son chevet. La saison se termine par House qui se fait tirer dessus par le mari d'une patiente.
That was a patient of yours.
Oh, well, if you want to leave the chocolates downstairs.
Stay! Stay away from it. Shocking, isn't it?
Et cette saison va servir à confirmer la popularité de la série avec quelque 18 900 000 spectateurs en moyenne, 10 millions pour les rediffusions durant l'été et un Golden Globe de meilleur acteur pour Hugh Laurie. « En saison 3, il y a un autre opposant régulier à House, un flic, Michael Tritter, interprété par David Morse, un acteur de Saint-Elsewhere et qu'on retrouvera ensuite dans Trémé et dans True Detective. House l'a humilié alors qu'il était un patient de l'hôpital. Et depuis, Tritter cherche à coincer House pour son addiction à la Vicodine. Il parviendra même à le traîner devant la justice. Depuis le début de la série, le fait que House soit accro à la Vicodine, un analgésique pour calmer ses douleurs à la jambe, est un élément sous-jacent à la série. Dès le début, Cuddy et lui en parlent.
Vous êtes accro.
Si les calmants dirigeaient ma vie, je serais d'accord avec vous, mais c'est ma jambe qui me dicte mon emploi du temps heure par heure.
Vous êtes dans le déni.
Exact. Je n'ai jamais eu d'infarctus à la jambe, je n'ai pas de muscle mort ni de lésion neurologique. Aucune douleur, juste un léger chatouillis. Et les filles craquent sur les cannes, plus que sur les bébés chiens.
Il vous faut votre dose, vous êtes un drogué. Vous en êtes à quoi, 80 mg par jour?
Oh non, c'est beaucoup trop, la modération, il n'y a que ça de vrai. Sauf si on a mal.
C'est le double de ce que vous preniez quand je vous ai embauché.
Parce que vous êtes deux fois plus enquiquinante.
Je ne peux pas toujours être là pour vous protéger. Vous savez, les patients en parlent, les médecins aussi.
De quoi, des kilos que vous avez pris dans les fesses? J'en parle pas, moi.
Et le fait que, en début de saison, House soit provisoirement guéri de son problème à la jambe, donc plus besoin de Vicodine, ouvre un sujet encore plus intéressant. Jusqu'à quel point ces problèmes et cette addiction définit-elle Gregory House? En clair, House est-il House à cause de ses souffrances et de son addiction aux antidouleurs? Intéressant, hein? L'audience de cette saison passe à 20 millions de spectateurs pour le démarrage, avec des pics à 24 millions. Et le salaire de Hugh Laurie, lui, passe à 300 000 dollars par épisode. Après trois saisons triomphales, on pourrait reprendre le dicton bien connu « Pourquoi changer une équipe qui gagne ?» Continuons sur cette lancée, ne changeons rien, au risque de tomber dans la routine. Eh bien non. À la fin de la saison précédente, les trois assistants de House, Cameron, Foreman et Chase, quittent leur poste. On aurait pu s'imaginer qu'il ne s'agissait là que d'un suspense de fin de saison, assez artificiel, et que tout allait rentrer dans l'ordre au début de la nouvelle année, et pas du tout. Les trois personnages sont bel et bien hors jeu. Ils ne vont plus avoir qu'un rôle très accessoire dans la série, et House va devoir se trouver de nouveaux collaborateurs.
À la fin de la saison 3, l'univers de House se désintègre. Un peu comme un Big Bang. Tous ses assistants sont partis et House se retrouve maintenant tout seul. C'est peut-être ce que Dieu lui réservait dès le début, au fond. Et au début de la saison 4, on le retrouve donc ainsi. Un personnage solitaire qui est incapable de fonctionner médicalement parlant. Non pas parce qu'il n'en est pas capable, car il l'est bien évidemment, mais parce que pour son confort et intellectuellement, il a besoin d'être entouré par ses assistants. Émotionnellement, sans doute pas, mais intellectuellement. Il a besoin d'eux pour exprimer ses idées. Et il va devoir composer sans eux.
Et c'est là que les choses vont devenir drôles. Plutôt que de mener des entretiens d'embauche, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, House va transformer tout cela en un gigantesque jeu de télé-réalité, en prenant une quarantaine de candidats au poste et en les éliminant les uns après les autres, semaine après semaine, tout cela en parodiant les éliminations dans des émissions comme Koh-Lanta, Le Bachelor ou encore The Apprentice. Ah, vous savez, c'était l'émission où Donald Trump lançait à la fin de chaque épisode « Vous êtes viré » aux candidats malheureux. Ah. Il y a même dans un épisode une épreuve d'immunité. On connaît parfaitement tous les codes des émissions que House parodie. Par exemple, quand il renvoie un postulant avec une rose, eh ben on comprend parfaitement que c'est une référence au Bachelor. Et comme House adore pousser les gens dans leur dernier retranchement, qu'il ne répond à aucune autorité et aucune règle, eh ben ça va faire du dégât. Au final, après une dizaine d'épisodes, il va rester trois qui seront ses nouveaux assistants.
House va être très dur avec eux quand il va les recruter. Et c'est délibéré, parce qu'il teste leur mental, pour savoir qui pourra affronter sa façon de faire et qui ne pourra pas. C'est un peu comme un camp d'entraînement. Il essaie de séparer le bon grain de l'ivraie. Mais c'est, au final, une équipe géniale. Ils sont... Enfin, j'espère que je n'apparais pas comme déloyal envers Jennifer, Jesse et Omar, hein. Eux, de toute façon, ils seront de retour dès les épisodes suivants. Mais j'espère que ce n'est pas déloyal de dire que les nouveaux sont absolument formidables. Ils ont fait un boulot fantastique.
Et les petits nouveaux sont numéro 13, ouais, on l'appelle comme ça parce qu'elle est arrivée en 13e position, incarnée par Olivia Wilde, que l'on découvrira bisexuelle et atteinte de la maladie d'Huntington, Chris Taube, interprété par Peter Jacobson, et Laurence Kuttner, incarnée par Carl Penn. Mais cela ne signifie pas que Cameron et Chase vont totalement disparaître. Non, non, ils travaillent encore dans l'hôpital. Les cas qui vont arriver dans cette saison vont être de plus en plus stupéfiants, comme cet homme tellement gentil, qui supporte absolument toutes les horreurs qu'on peut lui faire ou lui dire, que House va le dire atteint d'un problème cérébral. Comme si la gentillesse était une maladie. Il y aura aussi une jeune femme coincée dans une station au pôle sud et qui ne peut être soignée que par visioconférence. Et il y a deux épisodes qui évoqueront la vie après la mort. Et les deux derniers épisodes, absolument extraordinaires, impliqueront House en personne dans un accident. Un accident qui s'avérera mortel pour une de ses aspirantes assistantes.
Qui suis-je ?
C'est pas possible, non.
En quoi est mon pendentif ?
En ombre.
Cette saison, les épisodes sont allés jusqu'à des 17 millions de téléspectateurs, avec un record absolu pour l'épisode qui a suivi la retransmission du Super Bowl avec 29 400 000 spectateurs. Et Hugh Laurie gagne maintenant 100 000 dollars de plus, 400 000 dollars l'épisode. Et cette année, la série entre officiellement dans le livre des records. C'est la série la plus regardée au monde. En saison 5, certes, les tout premiers épisodes sont centrés sur la mort de Amber, l'un des personnages de la saison précédente et qui, justement, a perdu la vie dans le final de la saison 4 avec cet épisode particulièrement dramatique de l'accident d'autobus. Cette mort va déclencher un sentiment de culpabilité avec House face à son ami Wilson. Wilson qui était tombé amoureux d'elle et qui est terrassé par la douleur.
Tu fais de la tachycardie. Ça, c'est compliqué parce que tu as perdu tes deux reins.
Je vais mourir.
Je t'aime.
Moi aussi, je t'aime.
Wilson va même jusqu'à quitter provisoirement l'hôpital. Mais il faudra attendre ensuite les 5 derniers épisodes de la saison pour être à nouveau extrêmement surpris. Curieusement, c'est le départ d'un des acteurs de la série, Carl Penn, appelé à des fonctions au sein de l'administration du président Obama, qui redonne un coup de fouet au scénariste. Ils doivent trouver une raison à la disparition très soudaine du personnage du docteur Kuttner, un mystère que cette fois, House ne pourra pas élucider.
Oh non.
Envoyez une ambulance au 410 Willis, appartement 5C. Un homme de 28 ans, blessure par balle dans la tempe droite. Alertez Princeton Plainsboro, qu'une unité de soins intensifs soit prête. Ses pupilles sont dilatées, sa tête enflée.
C'est toujours pas fou. À la Kuttner !
Laisse-moi faire.
Eric.
Et oui, en effet, dans la série, Kuttner se suicide, chez lui, sans laisser le moindre mot, la moindre explication. Et cette situation fait boule de neige et entraîne la série dans des recoins inimaginables.
Georgia. Georgia.
Le producteur de la série, David Shore, en disait « Les dominos vont se mettre à tomber ». C'est toujours important pour nous que l'usage que fait House des drogues ne soit pas simplement un sujet de comédie. On montre très clairement que c'est un problème, mais que c'est compliqué, parce qu'il souffre aussi terriblement. Dans les derniers épisodes de cette saison, il prendra une décision. Va-t-il ou non continuer de prendre ses antidouleurs ?
Je ne pense pas que House ait besoin de justifier son addiction. C'est tellement classique comme attitude. C'est l'exemple parfait d'avoir une mauvaise estime de soi. Je ne crois pas qu'il donne beaucoup de valeur à sa propre vie. Je ne pense pas que cela lui importe de vivre bien, longtemps et en bonne santé.
Ravagé par la mort de Amber, par de nouveaux médicaments et par le suicide de Kuttner, House hallucine un épisode entier et se rêve avec Cuddy. Quand il se rend compte que tout cela est une hallucination causée par l'absorption de drogue, eh ben c'est le choc pour lui.
Alors, c'est ça l'histoire que vous aviez envie de vous inventer. C'est une belle histoire.
Dommage qu'elle soit fausse.
Au fil des saisons, l'accoutumance aux médicaments est devenue un sujet crucial. House est un addict. Il s'en rend compte et à ce moment-là, entre en cure de désintox. La saison 6, qui démarre en 2009, s'ouvre avec un double épisode qui forme un peu un téléfilm unitaire à part dans la série, avec uniquement House et pas les autres personnages. Une sorte de vol au-dessus d'un nid de coucou, version télé. House est au cœur d'un hôpital psychiatrique pour soigner sa dépendance. House s'oppose à son médecin traitant, le docteur Nolan, incarné par André Brouwer, le même André Brouwer de la série Homicide et de Guillaume's Crossing, vous vous souvenez ? C'est un épisode absolument extraordinaire, totalement hors norme. 16 500 000 téléspectateurs aux États-Unis l'ont suivi, et si on compte les rediffusions, c'est monté à 20 millions. On retrouvera dans cette saison l'équipe de base de la série, le Dr. Chase, le Dr. Cameron et Foreman. Et même si pour Cameron, dorénavant marié à Chase, l'actrice Jennifer Morrison quittera la série en cours de saison, après 8 épisodes, elle y reviendra un peu plus tard pour faire signer à Cameron les papiers du divorce. Et ça a été un mariage un peu court. Et ils seront toujours aux côtés de 13, Olivia Wilde, et de Taube, Peter Jacobson. Un épisode extrêmement intéressant qui va tout remettre en cause, un véritable cas de conscience. Ils vont devoir diagnostiquer et traiter un dictateur africain, interprété par James Earl Jones, un acteur impressionnant qui est aussi la voix de Darth Vader. Et Chase va se tromper, on va dire, sur le pronostic. C'est d'ailleurs cette action qui va avoir des conséquences pour son mariage avec Cameron. De son côté, avec Cuddy, qui est toujours dans une relation amour-haine avec le Dr. House, il y a un épisode entier de la saison 6 qui va lui être consacré. Et on va voir les choses sous son angle. La gestion de l'hôpital, la myriade de soucis à laquelle elle est confrontée. Et la saison 6 est aussi l'occasion pour Hugh Laurie de passer derrière la caméra. Il réalise effectivement un épisode lockdown. Futé, l'épisode isole les personnages, chacun vivant des trames séparées. D'où le titre, Lockdown, coincé. Et ça permet à Laurie de ne pas être en permanence dans toutes les scènes et donc de pouvoir assumer son rôle de réalisateur. Par contre, il n'aura pas les 15 jours habituellement donnés au réalisateur pour préparer un tournage. Parce qu'il est accaparé par son rôle dans l'épisode précédent, et bien il est arrivé dans le sien pas très préparé. Il en réalisera un autre, un des tout derniers de la série. Le final de la saison est marquant. Malgré tous ses efforts, House ne parvient pas à sauver une jeune femme coincée sous des décombres.
Il faut pas vous sentir responsable de sa mort. C'est pas votre faute.
C'est bien le problème ! J'ai fait tout ce qu'il fallait et ça l'a pas empêché de mourir. Comment pouvez-vous croire que ça peut me rassurer ?
Vous ne devriez pas rester seul. Vous saignez.
Je vais m'adresser à l'employé. Dégagez de mon chemin.
Par contre, en termes d'audience, la saison 6 démarre à 16 500 000 téléspectateurs et descend sous la barre des 10 millions, pour se terminer à 10 900 000. Hein. Ça fait une moyenne, grosso modo, de 12 700 000 téléspectateurs. C'est pas mal, mais quand même, on sent que ça baisse un peu. En saison 7, House et Cuddy sont ensemble. Mais alors, ensemble, vraiment. Alors, est-ce qu'on a franchi le mur clair de lune, le moment où la série s'écroule parce que le conflit entre les deux personnages et leur attraction sexuelle s'effondre d'un coup ? Eh ben non. Parce qu'évidemment, le fait qu'ils sont maintenant en relation, ça pose des soucis dans leur relation de travail, et pas uniquement là. Dans un épisode, House doit survivre, si on peut dire ça comme ça, à un dîner avec la mère de sa dulcinée, incarnée par la grande actrice Candice Bergen. N'empêche que la situation est tellement bizarre, étrange et décalée que le premier épisode de la saison a été tourné deux fois. La première version était totalement différente, bien trop romantique pour être crédible. Donc, on l'a mis à la poubelle, tout a été retourné. Numéro 13 va disparaître de la série quelque temps. Son actrice, Olivia Wilde, tourne un film, Cowboy et Aliens. Dans la série, on explique que 13 est emprisonné pour avoir volé des médicaments et avoir aidé à la mort volontaire de son propre frère. En attendant, c'est Amber Tamblyn, la vedette de Joan d'Arcadie, qui la remplace dans le rôle de Martha, une jeune étudiante surdouée qui intègre l'équipe de House. La saison va se terminer par un coup d'éclat. Séparé de Cuddy, sous l'influence d'un médicament expérimental censé le guérir de son mal, House a franchi toutes les limites et, en voiture, il ravage l'appartement de Cuddy. Nous sommes en saison 8 et elle se déroule 11 mois plus tard. Et House, lui, a passé 8 d'entre eux en prison. Emprisonné puis libéré, il revient à l'hôpital alors que Cuddy n'y est plus. Et il y a une raison à ça. En effet, en mai 2011, juste à la fin de la saison précédente, Lisa Edelstein quitte la série. La renégociation de son contrat après 7 années initiales n'a pas abouti car le budget a dû être resserré. Vous savez, après 150 épisodes, ce n'est plus très utile pour Universal, le producteur, de produire de nouveaux épisodes, car la série sera amortie avec les rediffusions. Donc, on peut réduire le casting pour faire des économies. Lisa Edelstein va très vite apparaître dans The Good Wife, dans Scandal, dans Castle, et dans la saison 2 de The Good Doctor, la série de son ancien producteur, David Shore. Le départ de Cuddy a obligé les scénaristes à revoir tout l'arc narratif de cette saison, un peu en catastrophe, juste avant le début du tournage. House va se retrouver avec de nouveaux assistants. La très sérieuse et scolaire Dr. Park, incarnée par Charlene Yee. Odette Annable de Brother and Sister, qui tient le rôle de Dr. Adams. Et par contre, numéro 13 s'en va, elle aussi, après 3 épisodes. Mais c'est parce qu'elle est appelée par un rôle dans un long métrage. Elle sera de retour à la fin de la saison et à la fin de la série. Car oui, la 8e saison est aussi la dernière. Le contrat de Hugh Laurie, qui gagne maintenant 700 000 dollars par épisode, se terminant, l'acteur souhaitant se consacrer à des rôles de cinéma. On peut le comprendre. Depuis 8 ans, ça a été des journées de 14 heures avec un réveil à 4h30 du matin. Il va prendre 3 ans pour se consacrer à la chanson, puis il rejoindra la distribution de VIP, sera dans le génial À la poursuite de demain, le film de Brad Bird avec George Clooney, puis de la formidable mini-série The Night Manager. On le voit ensuite, 2 saisons durant, tenir le rôle principal dans Chance, où il est un neuropsychiatre qui va être entraîné dans le monde du crime par un policier à la double vie. Et il revient à la comédie actuellement en étant le capitaine d'un navire de croisière accidenté, ouais, enfin, un navire interplanétaire, dans Avenue 5. Plombé par la calamiteuse série Terra Nova qui ouvre la soirée, la dernière saison de House fait sa plus faible audience de toute sa carrière. 8 600 000 téléspectateurs en moyenne, alors qu'elle en faisait encore le double 2 années auparavant. Après 177 épisodes, la série prend fin en mai 2012. Et pourtant, une saison 9 avait été imaginée par Kathy Jacobs, la productrice. House devenait pharmacien dans une petite ville de Nukla, un endroit si reculé que les hôpitaux y ont été fermés. Il devient donc le diagnosticien et confident de tous les habitants. Mais ça, ça n'a pas pu se faire. Arrivé au dernier épisode, Hugh Laurie a loué un jet privé pour emmener l'équipe sur les lieux du tournage de la scène finale. Il a aussi distribué à toute l'équipe des cannes, comme celle de Gregory House. Quelques années auparavant, il avait aussi organisé une soirée surprise pour le dernier jour de tournage de Amber Tamblyn avec 100 personnes et ses parents. Pour cet épisode final, là, de nombreux personnages apparaissent. Cameron, numéro 13, Martin Masters et même Kuttner. Et cet épisode a pour titre « Tout le monde meurt », car ça renvoie au titre de l'épisode pilote « Tout le monde ment ». L'épisode final est à la limite de la séance de psychanalyse. Un trip existentiel où House se livre et s'auto-analyse au milieu d'un immeuble en flammes. Wilson, quant à lui, se sait condamné par un cancer. House va donc se faire passer pour mort et échapper à une occupation qui pourrait le mener en prison. Et à la place, il va passer les 5 derniers mois qui restent à vivre à Wilson dans un road trip en moto à travers les États-Unis.
I'm dead, Wilson. How do you want to spend your last 5 months?
Et en guise de clin d'œil, André Brouwer, l'acteur de l'ancienne série de Paul Attanasio et qui était le psychiatre qui soignait House alors qu'il était en rehab, apparaît aussi dans l'épisode. Le dernier épisode est précédé, le soir de sa diffusion, d'un documentaire rétrospectif. Sauf que Swan Song, c'est son nom, est bien plus intéressant qu'un montage de scènes des épisodes passés. D'ailleurs, il figure sur Amazon Prime Video, donc je vous le recommande. Il est tourné par Hugh Laurie lui-même, équipé d'une caméra portable, et il nous montre toutes les coulisses de la série lors des derniers jours de tournage, du maquillage aux assistants et toute l'équipe technique. C'est suffisamment rare pour que l'on mette en lumière les centaines de personnes qui ont travaillé des années durant pour ne pas le signaler. En France, évidemment, House a été un grand succès. Mais on oublie qu'elle a commencé en fait à la rentrée 2004, initialement sur une toute petite chaîne, qui n'existe même plus. TF6, c'est elle qui a diffusé en prime time les 2 premières saisons, histoire de faire un test grandeur nature avant que la série ne passe sur TF1. Et sur les 177 épisodes, Hugh Laurie, jamais très à l'aise quand il s'agit de se regarder lui-même, ben on n'aura vu qu'une vingtaine. Par contre, il aura aussi été l'un des instigateurs d'un groupe musical, The Band From TV, avec lui, Jesse Spencer, Bob Gudney, James Denton, le James Denton de Desperate Housewives, et Scott Grimes. Ils se produisent dans des galas de charité. Ben écoutez-le juste. Mine de rien, à travers tous ces développements et cette singularité du personnage qui était tenu du début à la fin, House a contribué à redéfinir la série médicale. Loin du docteur tout-puissant des docteurs Kildare des années 60, la série nous plonge dans le monde de la médecine, des prescriptions et diagnostics, le tout en gardant la forme d'une série de procédurales. Ben, bravo, Dr. House. La semaine prochaine, nous serons dans un autre siècle, dans les années 1900, aux côtés de Valentin, de Pujol et de Terrasson. Nous suivrons les Brigades du Tigre. Ce podcast est disponible sur Audio Now, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.